France Inter.
Voici le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. La libération de l'un des deux derniers otages franco-israéliens de Gaza, annoncée ce matin. Il s'agit d'Ofer Calderon. Il sera relâché demain, selon le Hamas, dans le cadre d'un nouvel échange otages contre prisonniers palestiniens. Nous sommes à Jérusalem dans un instant et le cousin d'Ofer Calderon, Olivier Jaoui, sera notre invité. À suivre encore, la construction chaotique d'un budget pour la France. Sénateurs et députés à nouveau réunis ce matin. Bonjour Laurence Perron.
Bonjour.
Vous êtes à l'Assemblée nationale et ils viennent de trouver un accord.
Oui, ça y est, on vient de l'apprendre, fumée blanche, la commission mixte paritaire sur le budget est conclusive. Même si les socialistes ont voté contre, il y a bien un texte sur lequel les 7 sénateurs et les 7 députés se sont entendus.
Et vous nous expliquerez comment ces députés et ces sénateurs sont arrivés à cet accord dans quelques minutes. Alors qu'on a appris ce matin que la tombe de Jean-Marie Le Pen à la Trinité-sur-Mer avait été dégradée la nuit dernière. Nous serons également en Ille-et-Vilaine dans ce 13-14. La décrue a débuté dans certaines communes. Une nouvelle explosion d'airbag dans une voiture, cela s'est passé à La Réunion. Un conducteur est mort, information de notre cellule investigation. Et puis cette crise à Angoulême, bonjour Alexis Demeyer.
Bonjour Jérôme.
La gestion du festival de la bande dessinée mise en cause.
Oui, le délégué général du festival fait face à des accusations de management toxique et de népotisme.
A tout de suite pour vos précisions, nous serons aussi à Nantes et en musique pour la folle journée. Le grand festival de musique classique nous propose un voyage. À 13h30, la médiatrice de Radio France avec nous, le traitement de la prise de fonction de Donald Trump et du procès de Nicolas Sarkozy sont au programme. 13h50, c'est la France, Liévin dans le Pas-de-Calais, des mines au sport de haut niveau. C'est avec Clémentine Blondet du journal L'Équipe. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, hommage à Marianne Faithfull, la chanteuse britannique décédée hier à l'âge de 78 ans. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
1200 personnes ont été assassinées ou enlevées le 7 octobre 2023 en Israël par le mouvement islamiste Hamas. Parmi ces personnes, des franco-israéliens. 42 sont morts, 8 ont été emmenés otages. Seuls 6 de ces otages ont survécu, 4 de ces otages ont déjà été libérés. Il en reste donc 2, Ohad Yahalomi et Ofer Calderon. Ofer Calderon, dont les enfants ont déjà été relâchés, il va pouvoir les retrouver. Bonjour Thibault Lefebvre.
Bonjour Jérôme.
Vous êtes notre correspondant à Jérusalem. C'est le Hamas qui l'a annoncé ce matin.
Oui, le Hamas. Confirmation israélienne quelques minutes après. Et c'est à ce moment-là que Isha Idan, l'oncle d'Ofer Calderon, a appris l'heureuse nouvelle. Isha Idan, c'est un homme âgé, complètement déprimé depuis l'enlèvement de son neveu il y a 483 jours. Et au moment où j'ai pu le joindre, il venait donc de prendre conscience qu'il allait sans doute revoir Ofer dans moins de 24 heures.
Mon cœur bat très fort et je me sens très heureux. C'est incroyable. C'est la première fois que je me permets d'être optimiste. Je sais qu'il n'est pas blessé maintenant. Je sais qu'il n'est pas malade maintenant. Et je sais qu'il est vivant. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et je continuerai de faire tout ce qu'on peut faire pour délivrer les autres, ceux qui ne sont pas encore libérés.
Demain, les enfants d'Ofer, Erez et Sahar, enlevés le 7 octobre puis libérés au bout de 52 jours, devraient l'attendre dans un centre spécialement aménagé à la lisière de Gaza. Ofer Calderon est un des deux Français, vous l'avez dit, encore otage à Gaza aujourd'hui. L'autre s'appelle Ohad Yahalomi et on ne sait pas s'il est vivant.
Et comme lui, Thibault, deux autres hommes seront libérés demain.
Oui, Keith Siegel, 65 ans, un israélo-américain enlevé dans le kibboutz de Kfar Aza. Il est, selon son épouse, dans un état de santé précaire. Et puis l'autre homme libérable s'appelle Yarden Bibas. Il a 34 ans, c'est le papa des deux derniers enfants israéliens encore à Gaza. Kfir et Ariel, pris en otage avec leur maman Shiri Bibas, est vraisemblablement mort. Yarden Bibas, Keith Siegel et Ofer Calderon vont être échangés contre 90 détenus palestiniens, dont 9 purgent des peines de prison à vie.
Et nous reviendrons sur le sort de Yarden Bibas et de sa famille dans une minute. Merci Thibault Lefebvre en direct de Jérusalem. J'accueille Olivier Jaoui, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct dans ce 13-14. Vous êtes le cousin d'Ofer Calderon. Vous vous battez depuis des mois pour obtenir sa libération. Vous ne saviez pas au fond s'il était toujours en vie lorsque vous avez appris ce matin qu'il allait être libéré demain.
Oui, merci de m'avoir invité sur votre antenne. Effectivement, nous ne savions pas, nous n'avons pas de preuve de vie d'Ofer Calderon et de tous les otages d'ailleurs. Depuis novembre 2023, il y a donc plus d'un an, quand il a été vu par ses enfants avant qu'il soit libéré de Gaza. Depuis, nous n'avons aucune preuve de vie, donc c'est évidemment un grand soulagement qu'il soit annoncé comme, espérons que ça se fera effectivement, libéré demain.
Le soulagement est total à cette heure, Olivier Jaoui ?
Non, non. Le soulagement concernant Ofer, oui, quand il sera libéré, quand j'espère qu'il sera passé au travers de la mascarade que le Hamas prépare peut-être, comme maintenant à chaque fois qu'il libère des otages, comme on l'a vu hier et la semaine dernière.
Les mises en scène autour de ces libérations d'otages.
Macabre, sordide, cynique, enfin, c'est de la torture psychologique jusqu'au bout. Alors, on ne connaît pas son état de santé. J'entendais Ishaï, hein, qui est mon cousin, à l'instant, sur votre antenne. Ça m'a beaucoup ému de l'entendre. Je ne sais pas si la nouvelle de sa santé. Il disait, on sait qu'il n'est pas malade. Je ne suis pas sûr qu'on le sache. Mais en tout cas, 15 mois de captivité dans les tunnels entourés de terroristes et d'assassins, sans avoir de certitude sur l'état, sur ce que sont devenus ses enfants. Il ne sait peut-être même pas qu'ils ont été libérés. Les enfants, quand ils étaient otages, craignaient, comme ils n'ont pas vu que leur mère soit morte à Nirose et leur autre frère, parce qu'ils ne l'ont pas vu non plus. Quand il va entrer, il va découvrir la mort de sa belle-mère, hein, ma cousine Carmela Dan, 80 ans, de sa nièce Noya, qui a été assassinée à 12 ans dans les bras de sa grand-mère. Elles ont été mitraillées toutes les deux. Donc, oui, du soulagement pour Ofer, de l'inquiétude pour tous les autres otages, dont Oad Yalomi, notre Français, dont on n'a pas de nouvelles. Et vous l'avez évoqué, une terrible tristesse, parce que la libération des premiers hommes, hier, du premier homme, bah, confirme que Shiri Bibas, et ses enfants, les enfants Ariel et Kfir Bibas, ne seront pas libérés, qu'ils sont morts. Donc ça, c'est terrible. Donc du soulagement, de l'inquiétude tant que c'est pas fait, et de l'inquiétude pour les autres otages dont on n'a pas de nouvelles et dont on sait que beaucoup sont morts.
Est-ce clairement que vous avez pu vous entretenir avec l'ex-femme d'Ofer Calderon, dont il ignore, lui, sans doute le sort aujourd'hui? Il ne sait sans doute pas si elle est toujours en vie.
En fait, on est tous cousins, c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait je suis le cousin d'Ishaï et Hadass Calderon, la femme d'Ofer, est ma cousine.
C'est ça.
Ofer, c'est le mari de ma cousine. Donc oui, ce matin on a échangé avec Hadass. Donc elle disait, d'ailleurs elle a publié un communiqué parce qu'elle a toujours été très active avec le forum des familles d'otages en Israël, qu'elle était soulagée, heureuse qu'enfin ses enfants allaient pouvoir retrouver leur père et que les deux enfants qui ont été otages iront psychologiquement beaucoup mieux avec la libération de leur père. Elle s'inquiète pour sa santé et elle a un mot, comme toujours, pour tous les autres otages. Mais elle est heureuse ce matin. Elle était déjà optimiste il y a deux jours, elle l'avait dit. Évidemment, elle est extrêmement heureuse de le revoir demain.
Vous allez vous rendre sur place vous-même ?
Pardon ?
Vous allez vous rendre sur place vous-même ?
Écoutez, si j'ai l'occasion, oui, j'étais allé déjà plusieurs fois en Israël depuis 7 octobre à la fois pour voir la famille et aussi pour participer à du bénévolat, donner un coup de main agricole parce qu'Israël en avait besoin. Je l'ai pas prévu pour le moment, mais je m'étais promis d'aller là-bas pour aller à nouveau serrer Ofer dans mes bras, Hadass, ma cousine Galit, la sœur d'Hadass, qui a perdu sa mère et sa fille. Je pense y retourner dès que possible. Je serai ravi de retourner là-bas et de les revoir.
Et on imagine que vous avez hâte de vivre ces moments. Merci Olivier Jaoui d'avoir été en direct avec nous dans ce 13-14 pour parler de votre cousin Ofer Calderon, qui sera donc libéré demain. Et tout comme, et vous en avez dit un mot à l'instant, l'Israélien Yarden Bibas. Bonjour Valérie Krova.
Bonjour.
Cet homme qui a donc été enlevé le 7 octobre avec sa femme et leurs deux bébés, mais on n'a pas de nouvelles d'eux.
Aucune nouvelle depuis près de 500 jours de Shiri, sa femme, et de leurs deux enfants, Kfir, 2 ans, et Ariel, 4 ans, tous les quatre enlevés dans le kibbutz Niroz. Les deux garçonnets sont devenus le symbole du massacre commis par le Hamas le 7 octobre. Ce sont les deux plus jeunes otages retenus par le mouvement islamiste palestinien. Leurs photos sont placardés partout en Israël. On sait par des témoignages d'anciens otages que Yarden Bibas n'était pas retenu avec le reste de sa famille. Ils ont été séparés après leur enlèvement. La libération du père risque d'être un moment triste en Israël, car il y a de fortes probabilités que ses deux enfants et sa femme ne soient plus en vie, même si personne n'ose le dire. Le Hamas avait d'ailleurs annoncé leur mort dans un bombardement israélien l'année dernière, ce qui n'a jamais été confirmé côté israélien. Sans nouvelles d'eux, la famille Bibas et notamment les grands-parents ont toujours voulu croire à un miracle.
Merci Valérie Krova.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
C'est l'information politique de la matinée. La commission mixte paritaire réunie depuis hier, 7 députés, 7 sénateurs pour se mettre d'accord sur le projet de budget de cette année, toujours pas adopté le 31 janvier. Cette CMP est donc parvenue à un accord. On vous retrouve, Laurence Perron, en direct de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez plus de détails sur la manière avec laquelle a été adopté ce texte, a été conclu cette commission mixte paritaire, sachant, et c'est ce que vous nous avez dit il y a quelques instants, que le PS s'y est opposé?
Oui, le PS a voté contre, mais l'important ce n'est pas qu'il vote contre, c'est qu'il y ait bien un texte à l'issue de cette commission mixte paritaire et que les 7 sénateurs et les 7 députés s'entendent terme à terme, article par article. Alors ce qui s'est joué dans les dernières minutes, c'est l'aide médicale d'État. La suppression de cette aide médicale d'urgence pour les étrangers en situation irrégulière est une demande historique de la droite et du RN, et de fait, les socialistes ont obtenu qu'elle ne soit pas supprimée. Mais pour les insoumis, le PS s'est déshonoré en acceptant et en votant une coupe de 110 millions d'euros, soit 15% du budget de l'AME, le député LFI Aurélien Lecoq.
Le Parti Socialiste, oui, a voté un article dans lequel il y avait une baisse de l'aide médicale d'État, alors même que ça faisait partie de leur ligne de rouge. Mais effectivement, s'il n'y avait pas d'accord sur l'AME, la CMP aurait pu ne pas être conclusive. Peut-être alors qu'il y a eu échange entre macronistes et socialistes pour sacrifier l'AME, pour permettre à la CMP d'être conclusive.
Alors ce n'est pas du tout l'avis du président du groupe socialiste au Sénat, Patrick Kanner.
Une victoire morale que nous avons ainsi obtenue. Donc nous restons dans l'opposition. Nous ne sommes pas là pour beurrer les tartines du gouvernement, disons-le très simplement. C'est un peu une CMP historique, mais nous avons pris toutes nos responsabilités.
Voilà, 14 heures de débat et les socialistes ont voté contre ce texte, mais ça ne change rien. Il y aura bien un texte lundi à l'Assemblée nationale, un texte qui porte 24 milliards de coupes budgétaires. Le PS en a sauvé 500 millions. Ils ne voteront pas ce budget, mais ils ne voteront pas non plus la censure.
Merci Laurence Perron, en direct de l'Assemblée nationale, pour ses premières informations et ses premières réactions grâce aux moyens techniques de Geoffrey Marianne. Sur ce budget et les critiques formulées cette semaine par le patron de LVMH, Bernard Arnault, qui accusait le gouvernement de pousser à la délocalisation, Michel-Édouard Leclerc parle aujourd'hui de chantage. « Vous ne m'entendrez jamais dire ça », dit-il. On a entendu dans les négociations et encore à l'instant les représentants du Parti Socialiste, puisque François Bayrou traite avec eux pour les convaincre de ne pas voter la censure la semaine prochaine. Mais il y a un autre groupe plus nombreux que le PS à l'Assemblée qui lui aussi agite la menace de la censure, c'est le Rassemblement National. Bonjour Camille Marigot.
Bonjour.
Et on a du mal à comprendre sa ligne en ce moment.
Ah oui, jusqu'ici, le RN était resté très discret sur ce budget. Marine Le Pen, quasi absente après la mort de son père. Et hier, jeudi matin encore, le député Jean-Philippe Tanguy assurait, lui, qu'il n'y avait pas de mesure écarlate dans la copie présentée par le gouvernement, contrairement à celle de Michel Barnier. Un peu plus tard, en pleine commission mixte paritaire, le même Jean-Philippe Tanguy change de pied et fixe une ligne rouge. L'article 4, qui prévoit de réformer la rémunération d'EDF pour sa production nucléaire, mesure qui va faire grimper les prix de l'électricité, selon lui. Intenable pour les ménages, suicidaire pour les entreprises et qui pourrait justifier, dit-il, une censure. Article finalement adopté, même si certains au RN confient ne pas comprendre grand-chose à la mesure particulièrement technique. Alors, où est la ligne? En effet, ce n'est pas moi qui décide, évacue ce matin Jean-Philippe Tanguy. Ceux qui ont le doigt sur la gâchette, ce sont bien Marine Le Pen, Jordan Bardella et les autres. En réalité, rien n'est tranché. Le RN semble mettre de côté toutes les options, préparer de quoi se justifier pour mercredi prochain et la probable motion de censure. Maintenir le flou entre l'écarlate et le rouge pour quoi qu'il advienne apparaître cohérent aux yeux de ses électeurs.
Merci Camille Marigot. En Bretagne, la tombe de Jean-Marie Le Pen, qui a été enterrée il y a quelques jours à la Trinité-sur-Mer. Cette tombe a été dégradée la nuit dernière. Forte dégradation, dégradée à coups de masse. Une enquête est en cours, une mesure de fermeture du site est en place. La ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, est en Bretagne. Précisément, aujourd'hui sur le terrain, département d'Ille-et-Vilaine, c'est l'un des 3 départements qui est toujours en vigilance rouge pour les crues. Nous avons en perspective la décrue pour ce week-end, a dit ce matin le maire de Redon. C'est l'une des communes les plus touchées. L'un de nos envoyés spéciaux sur place, Valentin Dunat, lui, est à Guichen où la décrue est amorcée. Les habitants et les commerçants rentrent chez eux et ils constatent les dégâts.
Et ce n'est pas anodin pour cette petite commune habituée aux inondations, alors que certains nettoient, constatent les murs, les papiers peints ou les parquets détruits. Deux sénateurs, une députée ont fait le déplacement parce que les conséquences sont donc importantes, tout comme le travail dans les jours, les semaines à venir. Écoutez cet échange, c'était il y a quelques minutes. Daniel Salmon, sénateur écologiste, Sylvie Robert, socialiste, avec le maire de cette commune, Dominique Delamarre.
Ce qu'on constate, là on vient de le voir avec le maire, c'est que c'est une crue exceptionnelle, puisqu'on dépasse de loin les amplitudes des crues passé, parce que ici Pont-Riant, c'est un village sur la rivière qui est inondé, on va dire, assez régulièrement, mais de cette ampleur-là, moi, j'ai jamais vu.
Voilà. Jamais connu.
On est venu pour mesurer ça, et surtout, ce qu'on disait au maire, c'est que ce qui va être important, c'est l'après.
Ne nous lâchez pas, hein, parce que là, on va avoir besoin d'être éboulé. Et c'est pas sur 8 jours, hein, ni 15 voilà. jours, c'est sur les mois qui viennent. Quoi.
L'occasion aussi de préciser hein, pour ces élus, avant le déplacement de la ministre de la Transition écologique demain, que venir, c'est bien, mais voter un budget qui prend la mesure du changement climatique, c'est mieux.
Valentin Dunat en Bretagne pour Inter. En Loire-Atlantique, plus de 400 personnes ont été évacuées depuis le début du phénomène et les écoles fermées dans 9 communes de ce département. Après l'accident de car scolaire qui a coûté la vie à une lycéenne de 15 ans hier à Châteaudun, département d'Eure-et-Loire, on a les résultats des analyses qu'a subi le chauffeur de ce car qui est en garde à vue. On a appris ce matin qu'il avait consommé de la résine de cannabis. À Paris, des bureaux de chercheurs du CNRS cambriolé en début de semaine. Au total, 12 disques durs et une unité centrale d'ordinateur ont été emportés. Ils contenaient des données sensibles liées à des recherches et brevets scientifiques en cours. Le vol a eu lieu dans les locaux de la faculté de médecine dans le 6e arrondissement. C'est une information de la cellule d'investigation de Radio France. Une nouvelle personne est morte la nuit dernière à La Réunion dans un accident de voiture avec des blessures caractéristiques des explosions d'airbags fabriquées par le japonais Takata. Ces explosions, depuis 2016, ont tué au moins 15 personnes en France, dont 14 outre-mer, et conduit plusieurs constructeurs à lancer des campagnes de rappel. Anne-Laure Barral, cette explosion à La Réunion a eu lieu après un accident.
L'automobiliste tué aurait perdu le contrôle de son véhicule en effectuant un dépassement provoquant l'accident avec deux autres voitures. Les secours arrivés sur place ont constaté que la victime avait des blessures très caractéristiques, des explosions d'airbag, le visage arraché, les mandibules de chaque côté. Selon des sources proches de l'enquête, il conduisait une Honda Jazz de 2003, un véhicule qui, selon le site du constructeur, faisait l'objet d'un rappel pour airbag dangereux depuis quelques mois à peine. Pourtant, la dangerosité des airbags de la marque Takata est connue depuis plus de 20 ans aux États-Unis. Ils se dégradent sous l'effet du temps, de l'humidité, des variations de température et explosent en envoyant des pièces métalliques dans le véhicule qui peuvent blesser ou tuer le conducteur. Dans les territoires d'outre-mer, le risque d'explosion est plus important, mais il y a eu aussi deux accidents dans le sud-ouest de la métropole, dont un mortel. Cette nouvelle victime alourdit le bilan à 16 personnes tuées en France par les airbags Takata.
À Bordeaux, 30 ans de réclusion requis contre Mickaël Fallou, qui est jugé aux assises pour l'assassinat de son ex-conjointe. C'était en 2021. Sandra Pla, qui avait alerté les forces de l'ordre inlassablement sur son sort. Il s'agit d'un féminicide annoncé, ont dit ce matin les avocats des parties civiles. Le verdict est attendu ce soir. En cas de séparation dans un couple, les conjoints perdent de l'argent, on le sait, cela engendre des frais. Mais une étude de l'INSEE Île-de-France nous apprend qui perd dans le couple et combien. En cas de divorce, une femme perd 20% de ses revenus en un an contre 1% seulement pour les hommes. Bonjour Cédric Hermel.
Bonjour Jérôme.
Vous avez rencontré ce matin Fabienne qui a mis 10 ans financièrement pour se remettre de sa séparation.
Elle a été en couple pendant 15 ans et du jour au lendemain terminée, désormais obligée de payer le loyer toute seule. Très très difficile à vivre pour cette Parisienne.
C'est très difficile, il faut tout calculer parce que l'argent de poche est devenu l'argent pour vivre, pour pouvoir avoir les loisirs, manger, se loger, etc. Ça, c'est difficile, se loger, par exemple.
Et après la rupture, elle a dû puiser dans ses économies pour payer de quoi manger, se chauffer, se déplacer. Elle a mis plus de 10 ans à s'en remettre financièrement. Il faut dire qu'en cas d'union libre, la perte financière pour les femmes s'élève à un peu plus de 10% par an, selon l'INSEE Île-de-France, contre 6% pour les hommes, ce qui fait dire à Fabienne...
C'est difficile de vivre tout seul, hein. C'est plus difficile, c'est sûr. Enfin, d'un autre côté, c'est la liberté.
Et cette situation est vécue en moyenne par plus de 81 000 couples par an en région parisienne, au point de faire plonger certains dans la pauvreté, poursuit l'INSEE.
Merci Cédric Hermel. Il y a les auteurs qui dédicacent, les visiteurs par milliers, le Grand Prix de la BD attribué il y a deux jours à Anouk Ricard. Bref, en apparence, le 52e festival de la bande dessinée d'Angoulême se déroule sans accroc, mais en coulisses, la tension est donc très forte. Alexis de Meyer, on vous retrouve, vous rentrez précisément de ce festival d'Angoulême. La gestion financière et humaine de son délégué général Franck Bondou est vivement contestée.
Oui, malgré les stars de la BD, les très belles expositions, la fête est gâchée. De récents articles de presse révèlent l'ampleur du malaise au sein de l'organisation du festival. J'ai pu m'entretenir avec des salariés et des prestataires qui dénoncent un management toxique. Ils s'inquiètent aussi de la mainmise de la famille Bondou sur le festival, puisque la fille du délégué général, âgée de 33 ans, est devenue en 2022 la directrice du développement. Mais ces critiques sont balayées par Franck Bondou chez nos confrères d'ici La Rochelle.
Nous répondrons à partir de lundi prochain à tous les reproches qui nous sont adressés. Nous ne sommes pas des gens parfaits, mais nous les récusons. Il n'y a rien de concret. Je pense que ce sera vraiment intéressant de regarder ce qu'est notre bilan artistique. Là, il va falloir parler beaucoup plus concrètement que par des phrases et des emportements.
Et pourtant, de récentes décisions font grincer des dents. Le prix du pass 4 jours est salé, 65 euros contre 45 l'an dernier. Et c'est désormais la chaîne de fast-food Quick qui est le principal sponsor. Dur à digérer pour les collectivités locales qui subventionnent ce festival, mais qui lutte aussi contre la malbouffe.
Si je veux résumer l'ambiance, Alexis, est-ce que je peux dire que tout le monde en parle, mais que personne ne vous en parle au micro ?
Oui, et c'est symptomatique du climat qui règne chez 9e Art Plus, la société dirigée par Franck Bondou. Des ex-salariés, mais aussi des journalistes et des éditeurs sont blacklistés. D'autres ont découvert que des appels supposés confidentiels sont en fait mis sur haut-parleur. Quant au maire d'Angoulême, Xavier Bonnefond, qui a plusieurs fois critiqué la gestion du festival, il a refusé ma demande d'interview. Le syndicat national des éditeurs, lui, réclame un appel d'offres en bonne et due forme, puisque si rien ne se passe d'ici le mois de mai, Franck Bondou restera aux manettes jusqu'en 2037.
Merci Alexis de Meyer. C'est une révolution qui va concerner tous les Français et elle débute aujourd'hui. Il s'agit de votre raccordement au téléphone et à Internet. La DSL, le réseau cuivre, va progressivement disparaître d'ici 2030 au profit de la fibre optique. Aujourd'hui, en ce vendredi, ce sont 162 communes réparties sur tout le territoire qui sont déconnectés de ce réseau cuivre. Bonjour Delphine Simon.
Bonjour.
Concrètement, ça veut dire quoi Delphine ? C'est un réseau qui en remplace un autre, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Le réseau téléphone installé dans les années 70, celui qui sous-tend la DSL, va céder la place à la fibre optique. C'est le plan France Très Haut Débit. D'ici 2030, il va falloir couper 44 millions de lignes. Le réseau cuivre jugé trop coûteux va devenir obsolète. Ces jours-ci, le calendrier s'accélère avec les 162 premières communes. Une sorte de tour de chauffe, car dans les années qui viennent, Orange devra passer en mode industriel. Ils seront 1 million en 2026 et à partir de 2028, 10 millions de lignes basculeront chaque année du cuivre à la fibre.
Est-ce qu'on peut dire non, Delphine ? Est-ce que je peux garder la DSL ?
C'est pas possible. Le mouvement est irréversible. Si vous ne faites pas le transfert vers la fibre, plus de téléphone fixe, plus d'internet et pour les entreprises, parfois, plus de fax, de système d'alarme ou d'appels d'urgence dans les ascenseurs quand les installations sont encore reliées au cuivre. 6 Français sur 10 ignorent la fin de la DSL. Orange, les collectivités, les fournisseurs réclament une campagne nationale d'information, comme lors du passage à la TNT. En attendant, ils font du porte-à-porte. Le gendarme des télécoms jure de ne laisser personne au bord du chemin. Jamais Orange ne coupera le cuivre dans une commune où la fibre n'est pas complètement installée. En attendant, à ce stade, 7 Français sur 10 ont une offre fibre, mais il y a de fortes disparités. Autre problème, 100% de raccordables, ça ne signifie pas forcément 100% de raccordés. Pour se renseigner, on peut aller vérifier sur le site de l'opérateur historique Orange quand sa commune va basculer.
Merci Delphine Simon pour ces explications en ce jour historique donc pour les raccordements au téléphone et à Internet. Le premier match de l'année ce soir pour l'équipe de France de rugby au Stade de France. Première rencontre du tournoi des Six Nations, c'est face au Pays de Galles, 21h15. La dernière victoire des Bleus dans le tournoi remonte à 2022. La Vasque Olympique, elle, va faire son retour à Paris uniquement l'été et dans le jardin des Tuileries, là où elle était positionnée l'été dernier au moment des Jeux Olympiques et Paralympiques. Ce sera jusqu'aux Jeux de Los Angeles en 2028 avec le même dispositif, l'anneau flamme surmonté du ballon qui va remonter à 60 mètres de hauteur. Ce sera entre le 23 juillet et le 14 septembre prochain. Comment on se retrouve ? Brest et le Paris Saint-Germain s'affrontent demain en Ligue 1 de football, mais les deux clubs seront aussi opposés en match de barrage de la Ligue des Champions. Le tirage au sort a eu lieu en fin de matinée, les Brestois voulaient plutôt affronter un adversaire étranger. Bah, ce sera finalement le PSG. Réaction de l'entraîneur brestois, Éric Roy.
Pas être déçu ou pas déçu, c'est comme ça, malheureusement. On avait que deux adversaires, et donc il fallait faire mieux dans la phase de poule pour éviter le PSG, éventuellement. Donc, on est juste déçu de jouer une équipe du championnat de France. Ça aurait été Monaco, ça aurait été Lille, ça aurait été pareil. On aurait préféré jouer une équipe étrangère, parce qu'on joue des Coupes d'Europe pour justement se confronter à des championnats étrangers. Donc, on ne peut pas contrôler ce genre de choses, donc on jouera contre le Paris Saint-Germain. On est déjà content d'être au prochain tour, donc voilà, ce sera le PSG.
Déjà assez content, effectivement. Exploit d'être au prochain tour, ce sera à Guingamp, Brest, PSG le 11 ou 12 février et le retour au Parc des Princes le 18 ou le 19. L'AS Monaco jouera contre le Benfica Lisbonne. Lille, de son côté, est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale. Et l'on en vient donc à la 31e édition de la folle journée de Nantes jusqu'à dimanche à la Cité des Congrès. 300 concerts, 2000 artistes, avec cette année les villes phares explorées par le festival. On voyage donc avec vous. Bonjour Stéphane Capron.
Bonjour Jérôme.
Les artistes ont concocté des programmes en lien avec ces villes à travers des compositeurs marquants de l'histoire de la musique.
Et l'on commence ce voyage à New York avec Philip Glass qui fête justement aujourd'hui ses 88 ans, le pape de la musique dite minimaliste. Et c'est la pianiste Celia Onetto Ben Saïd qui s'est plongée dans son histoire.
Quand on se penche sur sa vie, il revient de ses études, il revient de ses voyages en Inde où il puise beaucoup d'inspiration et en fait il se retrouve avec plombier puis chauffeur de taxi parce qu'il galère. Et ça aussi, ça raconte quelque chose de New York et de comment finalement on peut, quand on se bat, sortir un petit peu de sa condition.
Celia Onetto Ben Saïd qui jouera du Philip Glass à 16h30. On passe à Vienne. Stéphane, nous sommes au début du 19e avec Franz Schubert.
Oui, dans une atmosphère plus romantique, avec un duo composé des sœurs Milstein, Maria au violon, Natalia au piano. Ce sont deux très grandes spécialistes de Schubert. Elles viennent d'enregistrer l'intégrale des œuvres pour violon et piano.
La musique personnifie l'atmosphère de cette ville, de ce qu'on imagine de ces cafés viennois, des salons de cette époque-là, parce que Schubert, évidemment, faisait de la musique avec ses amis. C'était une atmosphère particulière qui nous parle beaucoup.
C'est une musique si délicate et les émotions s'enchaînent si rapidement. C'est une sorte de musique introspective. On rentre dans un monde psychologique, pratiquement.
Maria et Natalia Milstein, tout à l'heure à 15h, à la folle journée de Nantes. Et on finit ce voyage à Venise.
Oui, nous sommes au 18e, c'est le temps du baroque italien avec Vivaldi. Et c'est une formation très originale qui nous y emmène. Filia Trio avec Lisa Strauss au violoncelle, Pierre-Licia Borono au violon et Théo Hould à l'accordéon.
L'accordéon, à l'origine, ce sont les marins qui s'en sont emparés. Ils l'ont exporté de par le monde au gré de leur voyage parce que c'était à l'époque petit, léger, ça permettait de s'accompagner. Et donc l'accordéon, dans son ADN, il y a le voyage. Donc évidemment, Venise, mais demain, l'Amérique du Sud, la Russie, que sais-je encore, la Corée, on trouve de l'accordéon absolument partout. C'est la magie de cet instrument.
L'accordéon du Filia Trio, ce soir à 20h à la folle journée, dans ce programme consacré à Vivaldi. Merci Stéphane Capron, 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo d'Élodie Calac avant un week-end ensoleillé. Et puis à 13h30, Emmanuel Davier, la médiatrice de Radio France avec nous. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Jérôme, bonjour
de
à tous.
De quoi parle-t-on aujourd'hui?
Nous allons parler du procès de Nicolas Sarkozy et de Donald Trump, leur traitement éditorial sur l'antenne de France Inter.
À tout de suite, 13h45, notre feuilleton dans une famille des dents thérapeutiques. 13h50, c'est la France. Et c'est une chanson avec Clémentine Blondet du journal L'Équipe et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Jérôme.
Clémentine, vous nous emmenez à Liévin, dans le Pas-de-Calais.
Exactement, cette ancienne cité minière et toujours ville de sport accueille ce week-end les championnats du monde de cyclo-cross.
Et avec vous Frédéric, un hommage à Marianne Faithfull.
À Marianne Faithfull, nous réécouterons les souvenirs de deux personnalités qui nous ont parlé d'elle dans C'est une chanson, la chanteuse Chantal Goya et le producteur François Ravard qui fut l'un des compagnons de Marianne Faithfull. Et ils se sont rencontrés grâce à une chanson.
C'est une chanson spéciale, donc, aujourd'hui. À tout à l'heure.
L'Agirc-Arrco est à vous.
Ah, l'Agirc-Arrco. Par exemple, je savais pas comment demander la pension de reversion pour ma mère. Alors, heureusement, dans mon agence Agirc-Arrco d'Auriac, ils m'ont tout expliqué. C'est toujours mieux quand on fait ça ensemble.
Parce que la retraite complémentaire, c'est le patrimoine de tous les salariés du privé, vous serez toujours chez vous dans les 600 lieux d'accueil et de conseil de l'Agirc-Arrco. Et en plus, c'est gratuit. Agirc-Arrco, la retraite a de l'avenir. Rendez-vous sur agircarco.fr.
Je n'ai jamais rencontré une femme aussi ardemment, aussi passionnément libre.
Alexandra Lapierre.
Romancière, journaliste, féministe, amoureuse, globe-trotteuse en 1900. Miles Franklin, venu du fin fond de l'Australie, a bousculé tous les tabous de son époque. En vous racontant le destin inouï de cette immense écrivaine, j'ai acquis une conviction. Nous lui devons tous et toutes une part de notre liberté.
L'ardente et très secrète Miles Franklin, la nouvelle héroïne d'Alexandra Lapierre, un livre Flammarion.
France Inter, partenaire d'Elisabeth Costello, une création théâtrale de Christophe Warlikowski à la Colline Théâtre National. Christophe Warlikowski met en scène Elisabeth Costello, personnage de fiction, romancière submersive, imaginée par le prix Nobel de littérature sud-africain John Maxwell Coetzee. Sur le terrain des images, elle nous livre cauchemars, rêves et fantasmes dans une puissante méditation. Elisabeth Costello à la Colline Théâtre National du 5 au 16 février, un spectacle France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
C'est parfois pluvieux aujourd'hui sur le nord-ouest et sur le sud-est.
Oui, alors on surveille toujours les crues aussi hein, sur le nord-ouest et le nord. Vigilance rouge pour Ille-et-Vilaine, Morbihan, Loire-Atlantique. Entre l'Auvergne, la Provence, les Alpes et le Jura, quelques pluies plus fréquentes et parfois orageuses toujours de la Provence à la Corse. Un petit peu de neige en montagne avec un risque d'avalanche sur les Alpes, sur les Pyrénées aussi. Du sud-ouest au nord-est, quelques éclaircies plus belles vers l'Aquitaine. Des éclaircies vers le Languedoc-Roussillon avec du vent. On a une perturbation pluvieuse qui circule du nord-ouest vers le bassin parisien et les Hauts-de-France, avec quelques flocons possibles entre Normandie, Île-de-France et Centre. Et puis les températures baissent, 4 à 11 degrés et jusqu'à 16 en Méditerranée.
Un tout petit mot du week-end, Élodie, et du soleil ?
Oui, on va retrouver quand même nos pluies demain sur le sud-ouest. En Méditerranée, des pluies parfois orageuses, mais ailleurs, davantage de soleil, hein, surtout dimanche, et une ambiance rafraîchie.
Élodie Calac, Météo France.
France Inter. Le 13-14. Jérôme Cadet.
Comme chaque mois dans ce 13-14, le rendez-vous de la médiatrice des antennes de Radio France avec trois invités aujourd'hui. Bonjour Charlotte Piret.
Bonjour.
Du service police-justice de France Inter. Je salue Sébastien Paour, notre correspondant à Washington. Bonjour Sébastien.
Bonjour à tous.
Merci d'être debout aussitôt en cette journée. Pour vous, et Rémi Sulmont également avec nous. Bonjour, directeur de la rédaction de France Inter.
Bonjour Jérôme.
Commence Emmanuel par Nicolas Sarkozy, ce procès. Il comparaît depuis le 6 janvier dernier, pendant 4 mois, devant le tribunal correctionnel de Paris, dans l'affaire dite du financement libyen de sa campagne présidentielle victorieuse, celle de 2007.
Dans cette affaire, il est question de virements suspects, de voyages discrets, de valises de billets. Ses protagonistes, un ministre de l'Intérieur, candidat à la présidentielle, un dictateur d'Afrique du Nord et leurs proches. Cette affaire, c'est celle du soupçon sur la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. A-t-il reçu l'aide financière du Libyen Muammar Kadhafi ? Après 10 ans d'enquête, c'est l'heure du procès. Et voilà ce qu'en disait l'ancien président français en 2020 dans une interview télé.
Si c'était une série, moi qui suis un passionné de série, on dirait le scénario est invraisemblable. Ça ne me fait pas sourire malheureusement, parce que c'est grave. Pas simplement pour moi, mais pour la France, qui donne le sentiment que son ancien chef de l'État pouvait être un corrompu, c'est une ignominie.
L'ancien président de la République est jugé pour corruption passive, association de malfaiteurs et recel de détournement de fonds publics libyens. Nicolas Sarkozy a toujours plaidé la thèse du complot dans cette affaire qu'il qualifie de fable. Une affaire trop peu évoquée sur l'antenne, nous écrivent des auditeurs qui s'étonnent, je cite, d'une information minimale sur ce procès. Rémi Sulmont, vous êtes le directeur de la rédaction de France Inter. Est-ce un ressenti de la part des auditeurs ou bien un choix éditorial, puisque ce procès, on le sait, est particulièrement long, il dure 4 mois.
Alors, il y a bien eu un choix éditorial, c'est de suivre ce procès quasiment en continu et d'en rendre compte très régulièrement à l'antenne. Pour vous, je suis allé compter le jour de l'ouverture du procès, donc le 6 janvier dernier, le lundi 6 janvier, nous avons fait la une sur ce procès à 5h, à 6h, à 7h, à 8h, à 13h, à 19h. Autant vous dire que c'est rare qu'on en fasse autant, ça arrive mais c'est rare, ça se justifie par le caractère exceptionnel du procès, pacte de corruption, ex-président de la République. Vous allez me dire que c'était le premier jour, mais nous avons fait le choix et nous ne sommes pas nombreux à l'avoir fait, Charlotte Piret dans la salle d'audience pourra en témoigner tout à l'heure, de suivre ce procès quasiment en intégralité. Charlotte a suivi quasiment toutes les audiences. Mais j'entends ces auditeurs, Emmanuel, vous nous dites que le procès est peu évoqué. J'entends ce ressenti, effectivement, malgré l'investissement et le travail de Charlotte. Ça s'explique, les audiences n'ont lieu que 3 fois par semaine et l'après-midi. Donc on fait plus de compte-rendu dans le 18-20, à 18h et à 19h, que dans le journal de 13h de Jérôme par exemple. Mais malgré ce procès, disons, par intermittence, on a aussi fait proposer des sujets régulièrement, des avant-sujets en matinale, avant les audiences clés, avant les audiences. Et puis après, il y a aussi Charlotte qu'il faut suivre sur les réseaux, parce qu'il y a de la vidéo, et ça c'est quand vous voulez.
On poursuit avec cette remarque, la différence de couverture concernant le procès de Mazan d'une part, et le procès Sarkozy Kadhafi d'autre part est flagrante, regrette un auditeur. Charlotte Piret, que vous inspire cette comparaison?
En fait, c'est une comparaison qu'on ne peut pas faire en réalité. C'est ce que disait Rémi Sulmon, c'est que ici on parle d'un procès en correctionnel pour le procès de Nicolas Sarkozy qui a lieu donc 3 après-midi par semaine. C'est discontinu à la différence de ce qui s'est passé pour le procès Mazan qui était devant une cour criminelle départementale. C'est le même fonctionnement pour une cour d'assises et sont donc des audiences qui se tiennent en continu du matin au soir. Donc évidemment, il y a déjà cet aspect-là purement factuel et d'organisation qui fait qu'on ne peut pas comparer l'un et l'autre. Et puis, en correctionnel, il y a aussi une dimension qui est qu'il y a beaucoup plus de part de technicité purement juridique à l'audience. Alors, effectivement, c'est intéressant et ça peut avoir un impact. Et quand c'est le cas, on le raconte à l'antenne de France Inter. Mais ça fait un peu moins de choses purement liées à l'affaire à raconter également. Donc, ça se prête un peu moins à des sujets pour nous sur France Inter. Pour ces deux raisons-là, vraiment comparer non seulement des affaires, mais plus généralement un procès de correctionnel et un procès d'assises ou de cour criminelle départementale, ça n'a pas de sens.
Et Emmanuel, vous avez aussi reçu des questions de nos auditeurs sur ce qui se passe dans la salle d'audience.
Oui, alors quand même, Charlotte évoquait la technicité. La question rejoint ce concept. Donc comment équilibrez-vous la complexité juridique de l'affaire avec la nécessité de la rendre compréhensible pour le grand public?
Oui, c'est une bonne question parce que c'est d'autant plus vrai dans ce procès que non seulement il y a la technicité juridique dont je parlais, mais il y a aussi la technicité de l'affaire en elle-même qui est tentaculaire. Il y a eu 10 ans d'enquête d'ailleurs et il y a énormément d'histoires différentes. Alors, cette question-là, elle se pose pour tous les procès aussi. C'est un peu tout l'enjeu de la chronique judiciaire que de pouvoir raconter. On sait qu'en radio, les temps sont très limités. On a 1 minute pour faire un compte-rendu d'audience en général. Quand on déborde, ce sont les présentateurs, Jérôme par exemple, qui grince un peu des dents pour la suite du journal. Exactement. Moi, j'essaye déjà de faire de la pédagogie parce qu'en fait, le monde de la justice intéresse, mais il est grandement méconnu des citoyens. Pourtant, c'est au nom du peuple français qui est rendu la justice en France. Donc, j'essaye de faire de la pédagogie avec un mélange de citations, de ce qui s'est passé vraiment à l'audience, de ressentis aussi. Parfois, ça vaut la peine de prendre le temps de raconter un visage qui est défait, des épaules qui s'affaissent, etc. Parce que ça en dit long sur ce qui est en train de se jouer. Et puis des explications pour aider l'auditeur à comprendre ce qui est en jeu. Ici, dans cette affaire, il y a quelque chose qui m'aide aussi, c'est que c'est une affaire avec beaucoup de tiroirs, je le disais. Et donc, souvent, j'essaye de raconter tiroir par tiroir, si on peut dire, ce qui à chaque fois fait une histoire en soi et qui permet, je pense, d'avoir un aperçu de ce qu'est ce dossier.
Et rapidement, comment percevez-vous l'atmosphère générale dans la salle d'audience entre les protagonistes et le public, demande un auditeur?
Alors, une salle d'audience, c'est très codifié, hein, c'est pas l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que c'est très aseptisé, l'espace est extrêmement délimité entre ce qu'on appelle le prétoire, où se tiennent les gens qui participent réellement au procès, les prévenus, les avocats, le parquet, etc. Il y a la zone de la salle avec la zone de la presse qui est extrêmement rempli tous les jours. La zone du public, il est encore plus tous les jours à cette audience. Le public est extrêmement présent. Il y a des gens qui restent sur le carreau tous les jours dans la file d'attente. Donc, il n'y a pas d'interaction en tant que telle, malgré tout. Il y a un public très assidu et qui suit. Et quand il y a parfois un bon mot, un peu qui se veut humoristique, notamment de Nicolas Sarkozy, la salle réagit, peut rigoler. Parfois aussi, on entend une salle qui gronde ou qui souffle, etc. Ça existe dans ce procès comme dans d'autres. Mais ça reste assez aseptisé parce que ça reste un procès en correctionnel.
Tout autre sujet qui a suscité ces derniers jours de très nombreux messages d'auditeurs. Donald Trump, depuis son investiture, le président américain, est omniprésent.
Mes chers compatriotes, l'âge d'or de l'Amérique commence dès aujourd'hui.
Bonsoir à tous. Tout pour l'Amérique. Donald Trump, 47e président des États-Unis, est donc désormais investi.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear.
Le discours du nouveau président américain vient de se terminer. L'âge d'or de l'Amérique commence maintenant, dit-il, et à ses yeux,
des auditeurs ont l'impression que Donald Trump occupe une place démesurée dans les tranches d'information. L'un d'eux écrit « Pourquoi en parler autant ? Il me semble que chaque déclaration ou action de sa part fait systématiquement l'objet d'un sujet ou d'une brève. » Rémi Sulmont, que répondez-vous à cet auditeur ?
C'est vrai que nous sommes face à un animal médiatique, un président américain qui est vraiment rodé à un mode de fonctionnement qui repose sur la provocation, en tout cas qui recherche de la réaction permanente. Et ça, la saturation de cet espace médiatique, ça peut provoquer, disons, de la Trump fatigue. J'allais dire que même Sébastien Paour, qui est en ligne avec nous, pourrait être atteint du syndrome de la Trump fatigue de temps en temps. Ma première réponse, ça serait de vous dire, continuez à nous faire confiance. Si vous avez choisi France Inter, c'est que vous savez qu'ici, on dose, on fait le tri. Pour vous, entre ce qui a du sens, ce qui est de l'écume, ce qui mérite une brève de 10 secondes dans un journal, ou ce qui mérite un débat de 10 minutes dans une matinale. Donc si on vous en parle vraiment, comme pour tout ce qu'on vous dit ici, c'est qu'on a réfléchi avant, qu'on a débattu, qu'on s'est parfois engueulé avant. On fait des erreurs, bien sûr, on n'est pas parfait. Mais en tout cas, si on fait de la place sur l'entête à Trump sur un aspect, c'est qu'on ait vraiment réfléchi. Deuxième réponse, on aurait sans doute beaucoup moins parlé de Kamala Harris si elle avait été présidente, si elle arrivait à la Maison Blanche, mais parce que Donald Trump, au-delà de la méthode, a un agenda qui bouscule les équilibres politiques, les équilibres internationaux, les équilibres économiques, et qu'il aura des incidents sur notre vie quotidienne, qu'il en a déjà sur notre vie quotidienne, politique, économique. Et j'ajoute qu'il est entouré de patrons de la tech, Elon Musk en premier, et d'autres dans son sillage, qui ont plus de pouvoir, plus de puissance que certains chefs d'État.
Des auditeurs qui ont parfois l'impression, Emmanuel, d'un Trump bashing sur l'antenne.
Oui, un auditeur écrit « En écoutant votre antenne, j'ai l'impression que les journalistes adoptent un ton très critique envers Donald Trump. Je comprends que ces déclarations prêtent à controverse. Cependant, un traitement équilibré serait bénéfique pour éviter une perception de parti pris. » Sébastien Paour, que vous inspire cette réflexion ?
Eh bien que, comme Rémi disait, que Trump est très présent médiatiquement, évidemment c'est très différent, ça vous a pas échappé des 4 années de Biden que j'ai couvertes. Il parle plusieurs fois par jour, il parle sur les réseaux, notamment sur le sien, Truth Social, il parle en conférence de presse, parfois ça dure une heure derrière la moindre signature de décret devant les caméras, donc il s'exprime beaucoup. Il dit beaucoup de choses, très vite, en passant d'une idée à l'autre. Il affirme parfois sans preuve, assez souvent même, sans s'appuyer sur des faits. Le dernier exemple, c'était hier, ici, après l'accident entre l'avion de ligne et l'hélicoptère militaire. Il a mis en cause dans cet accident les politiques de diversité et d'inclusion que les démocrates ont mis en place et qui ont permis, d'après lui, eh bien de laisser travailler dans des tours de contrôle d'aéroport, des personnes handicapées, diminuées intellectuellement ou épileptiques, je cite ces mots. Ça, ce sont des déclarations que nous, on doit vérifier, on doit contextualiser, on doit expliquer. Ça fait partie du travail de journaliste ici, de dire que telle ou telle affirmation n'est pas étayée, même si
c'est pas du Trump bashing, c'est ce que vous nous dites.
Mondiale. Non, je reconnais que le contraste avec les déclarations de Biden en son temps peut donner l'impression qu'il y a un Trump bashing, ouais. comme vous dites, Jérôme, mais objectivement, il s'agit d'être au plus près de ce qu'il dit et d'essayer de contextualiser.
Autre question, Sébastien, pour les auditeurs, ils estiment que maintenant que Donald Trump est à la Maison Blanche et qu'il est adepte des vérités alternatives, comment vous envisagez, c'est une question qu'il vous pose, en tant que journaliste, de démêler le vrai du faux et de rendre compte de son mandat?
D'abord, avec plusieurs méthodes. D'abord, en rappelant, comme je le disais, que telle ou telle information est faite sans preuve ou sans chiffre précis. Trump, par exemple, dit souvent « millions and millions of quelque chose ». Il dit qu'il a battu Kamala Harris à la présidentielle de « millions and millions de voix ». C'est faux, il y a eu qu'un peu plus de 2 millions de voix, en tout cas dans le vote populaire. Donc il faut sans cesse mesurer les propos de Trump, les ramener à la réalité ou au contexte. Et pour ça, le deuxième moyen, eh bien, c'est d'aller chercher les données, les chiffres, de faire parler les spécialistes, d'aller en reportage, de donner la parole à ceux qui vivent les réalités que Trump dit décrire. C'est ce qu'a fait Isabelle Labéry qui m'épaulait ici depuis l'investiture, avec Loïc Loury à New York et Loïc Piala à Los Angeles. Elle a par exemple donné la parole aux immigrés sans papier à Chicago. Vous savez que Trump veut expulser en masse du pays parce qu'ils sont, d'après lui, des criminels, des violeurs, des tueurs. évidemment, ils sont pas tous des tueurs, et donc on leur a donné la parole sur Inter pour équilibrer et tempérer les affirmations du président américain.
On a aussi, Emmanuel Davier, des questions sur les traductions, sur la sémantique, les mots qu'on utilise.
Oui, un message qui revient très fréquemment, je vous lis l'un d'entre eux. Vous utilisez parfois le mot déportation pour évoquer les expulsions mises en œuvre par Donald Trump. Le terme anglais deportation est couramment utilisé pour désigner une expulsion, mais en France, le mot déportation a une connotation historique extrêmement forte, évoquant le génocide perpétré pendant la Seconde Guerre mondiale. Rémi Sulmont, avez-vous passé des consignes particulières pour la traduction de ce mot ?
Absolument, c'est assez rare qu'on passe des consignes, mais là on l'a fait, on a demandé, et les rédactions de France Info et France Culture ont pris la même décision, on a pris une décision commune, on a demandé à nos journalistes de ne pas employer le terme déportation pour parler des expulsions massives décidées par l'administration Trump. Alors du point de vue linguistique, ça n'était pas faux, hein, mais nous avons estimé dans ce contexte précis que traduire expulsion était plus adapté, étant donné que les médias et les politiques américains qui emploient le mot anglais de déportation ne le faisaient pas en référence à la Shoah, alors que c'est le cas quand on emploie le mot en français ici en Europe, dans le contexte européen.
Sébastien Paour, comment réagissez-vous aux attaques directes de Donald Trump contre les médias et les journalistes qu'il nomme les fake news, s'interroge une auditrice. Et il l'a fait d'ailleurs encore le jour de son investiture.
Oui, il le fait quasiment à chaque discours. On a quasiment le droit. On est pointé du doigt régulièrement. Je fais comme tous les autres médias américains, hein, qu'on soit en meeting de campagne depuis 5 ans ou à la salle de presse de la Maison Blanche. Quand il nous stigmatise comme ça, eh bien, on laisse faire. On pose nos questions. Lui, il aime le spectacle. Il adore vous donner un petit nom, se moquer des gens. Il l'a fait avec Biden l'endormi, Kamala Harris l'extrême gauchiste. Il fait pareil avec la presse. On a l'habitude. Tant que ça nous empêche pas de travailler, eh bien, j'ai envie de dire, il est libre de dire ce qu'il dit. Hein.
Merci Sébastien Paour d'avoir répondu aux auditeurs de France Inter aujourd'hui en direct de Washington. Je remercie également Rémi Sulmont et Charlotte Pirret qui étaient avec nous pour nous parler de son travail au Palais de Justice de Paris pour couvrir ce procès autour de Nicolas Sarkozy. Merci Emmanuel Davier pour les prochains rendez-vous. Les auditeurs vous écrivent toujours sur le site de la médiatrice de Radio France qui est à votre disposition, 13h46
Merci
sur Inter.
Jérôme.
Merci aux auditeurs.
Notre feuilleton dans notre famille d'accueillants thérapeutiques toute cette semaine qui vit chez elle en Lorraine avec des malades psychiatriques 24 heures sur 24, c'est un métier. Isabelle et Mickaël encadrent chez eux Philippe, Franck et Marcel, tous trois atteints de schizophrénie et suivis par l'hôpital de Nancy. Lise Roosevelt, notre journaliste, les suit aujourd'hui dans l'activité karaoké. C'est l'occasion de mesurer les progrès.
Karaoké, vivre pour le meilleur de Johnny Hallyday. Interprété par Franck. Il est content, il a du public, là, parce qu'en fait, il adore avoir du public. Il adore chanter, donc ça lui permet de se défouler aussi. Franck aime bien avoir un public, en fait. Hein, quand on a du monde, alors il dit « Je peux chanter !» Oui, mais je sais, tu arrives. Alors ça lui permet aussi de mémoriser, d'apprendre des chansons. Donc c'est tout un travail aussi que je mets en place.
Et là, Franck, vous voyez plein d'effets positifs sur lui.
Plein, oui, par le chant.
Vous voyez quoi ?
La communication, on travaille le langage comme ça, en fait. D'ailleurs, quand vous l'entendez chanter, on le comprend nettement mieux. Quand il n'arrive pas à se faire comprendre, je lui dis « Franck, chante !» Alors il va me dire une chose en chantant, et là je comprends.
Et Franck, quand il est arrivé il y a 4 ans dans la maison, il n'aurait pas été à l'aise comme ça pour chanter devant tout le monde ?
Ah, mais pas du tout. Il était reclus. Hein. Souvent, les personnes qu'on accueille, ce sont quand même des personnes isolées, hein, isolées dans tous les sens du terme. Mais il y a plein d'autres choses. Hein.
Qu'est-ce que vous avez vu sur Franck, par exemple, qui a changé en 4 ans ?
Sa tenue vestimentaire, parce qu'avant, c'était... Hein, il ne prenait vraiment pas soin de lui. Que là, maintenant, ce matin, je ne lui ai pas dit « habille-toi comme ça ». Voilà, là, il est bien habillé, c'est coordonné, donc...
Il est rasé,
il se coiffe, il se lave, il aime bien, hein. Maintenant, tu prends goût, hein, quand on fait des masques sur le visage, pour avoir une belle peau.
J'en ai un coup.
Oui.
Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai pas entendu.
Quand c'est arrivé la première fois ici, j'étais mal habillé.
Philippe aussi, vous avez vu une énorme évolution en 11 ans.
Oui, oui, une énorme, 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 énorme évolution. Ah, Philippe, qu'est-ce qui a changé pour toi?
Tout, avant j'étais à Loubar. Si Mme Darby ne m'aurait pas pris, je serais mort à cette heure-ci, là.
Vous êtes heureux, là, Philippe?
Ah oui, je suis heureux, hein, depuis longtemps. Je compte de rester le plus longtemps possible.
Ça vous fait plaisir d'entendre ça?
Ça me fait plutôt plaisir, mais bon, faut toujours avoir la notion qu'on n'est jamais à l'abri, entre guillemets, d'une rechute. Pour en arriver là, il y a un travail constant, une écoute, des fois des recadrages.
Ça vous apporte aussi énormément de voir leur évolution?
Moi, ça m'apporte, en fait. Ça me fait plaisir de voir des gens heureux, en fait. En fait, tout le monde y trouve son compte.
Les 5 épisodes de ce feuilleton signé Lise Roosevelt sont à retrouver sur franceinter.fr.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France à 13h50 le vendredi. La France du sport, aujourd'hui avec Clémentine Blondet du journal L'Équipe. Clémentine, vous nous parlez de Liévin, la ville du Pas-de-Calais qui accueille ce week-end les championnats du monde de cyclo-cross et qui est un lieu très important pour le sport français.
Oui Jérôme, et si vous n'avez pas peur de la boue et que vous voulez voir de près les stars du cyclisme, Mathieu Van Der Poel, Wout Van Aert, Puck Peeters et Femme Van Empel, vous avez encore quelques heures pour prendre vos billets. Les championnats du monde de cyclo-cross débutent aujourd'hui avec l'épreuve par équipe mixte et durant le week-end, 35 000 spectateurs sont attendus pour vibrer lors des 7 épreuves qui se dérouleront sur le circuit du Val de Souchez. Si jamais vous êtes un béotien du cyclo-cross, Jérôme,
allez-y tout de même, rappelez-nous.
Sachez que ce sport hivernal est une course où les cyclistes doivent affronter virages serrés, descentes abruptes, passages dans le sable et montées d'escalier à effectuer à pied en portant son vélo. Cela faisait 20 ans que les championnats du monde n'avaient pas eu lieu en France et c'est donc le Pas-de-Calais, Liévin et son circuit du Val de Souchez qui ont été choisis. C'est un ancien terril qui a donné son relief à l'endroit, la trace d'une culture minière indissociable de la culture sportive.
Et en fait, c'est la découverte d'un gisement de houille au 19e siècle, 1857, qui a bouleversé l'histoire de Liévin, petit village agricole situé juste à côté de Lens.
Et en quelques décennies, plus de 20 000 habitants vont vivre et travailler à Liévin. Dans la cité minière, le sport va vite trouver une place majeure. Dès les années 1920, par exemple, les jeunes de la fosse, comme on appelle les mineurs, se retrouvent à la Société de gymnastique, de sport et d'armes, dans le quartier de la fosse numéro 3, créé par la Compagnie des mines de Lens. Pour participer à des épreuves de cross-country régionales, les jeunes qui n'ont pas de stade s'entraînent alors dans la rue, à la nuit tombée. Un sportif illustre est né à Liévin le 12 janvier 1894, Georges Carpentier, fils de mineur et benjamin d'une famille de 5 enfants qui deviendra...
Boxeur.
Bah voilà, je ne vous l'apprends pas, l'un des plus grands boxeurs français de l'histoire. Bien plus récemment, le footballeur Raphaël Varane s'est entraîné pendant 2 ans au Pôle Espoir de Liévin, tout près de l'Arena.
Et avec la création de cette Arena, on est dans les années 80 là, Clémentine, le nom de Liévin va franchir les frontières.
Exactement Jérôme, après des années de réflexion sur la construction d'un grand équipement d'athlétisme dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est finalement à Liévin que le stade couvert régional, son nom d'alors, voit le jour en 1986. La salle est immense et l'architecture détonne en plein milieu du bassin minier et de ses maisons de briques. Dès 1988, un meeting d'athlétisme en salle y est organisé chaque hiver. Ce rendez-vous va devenir incontournable. 9 records du monde vont être battus, dont celui de la perche par le tsar ukrainien Sergueï Boubka en 1993. Boubka est souvent revenu depuis à Liévin, participer à des courses pour lever des fonds pour les enfants de Tchernobyl et encore l'année dernière pour rencontrer de jeunes athlètes ukrainiens chassés par la guerre et hébergés à Liévin. Le meeting fait le plein chaque année. 5500 spectateurs viennent voir les stars de l'athlétisme mondial. Au fil du temps, ils ont pu voir dans cette salle d'autres sports, puisque les équipes de France de tennis féminin ou de basket masculin ont joué à Liévin. Teddy Riner y a aussi combattu lors de championnats de France. Et cette semaine, pour les mondiaux de cyclo-cross, la salle sert notamment de centre de presse. Pas mal. Mais autour de l'aréna se trouvent les pôles espoirs régionaux des Hauts-de-France, un centre aquatique, la faculté des sports, un lycée, un collège. À Liévin, 30 000 habitants, municipalité socialiste depuis 1945, le sport se vit dans les grands moments, mais aussi au quotidien.
Merci de nous l'avoir rappelé, Clémentine Blondet du journal l'équipe de C'est la France. Ah, c'est une chanson avec aujourd'hui Frédéric Pommier. Hein, c'est une chanson spéciale et consacrée à Marianne Faithfull qui nous a quittés hier à l'âge de 78 ans.
Marianne Faithfull, dont plusieurs personnes m'ont parlé depuis qu'existe cette chronique, notamment, souvenez-vous, en novembre dernier, Chantal Goya évoquait la chanson As Tears Go By, un souvenir de 1964.
J'ai eu la chance de faire des photos avec elle quand on était toutes gamines, toutes les deux, à 18 ans. Elle était venue de Londres, elle avait cette chanson. Et Philippe Aki avait à l'époque Mademoiselle Ashton ou Salut les copains. Et ils avaient mis une cabine téléphonique comme on voit à Londres, ces cabines rouges. Et on posait toutes les deux. Alors moi avec une mini-jupe et elle aussi. Et elle connaissait, je crois, Mick Jagger déjà, que j'ai rencontré dernièrement en plus, parce que c'est un voisin d'une amie. Et puis, pas loin de chez moi, dans son château.
Il en est Touraine. Pas loin.
Oui, en Touraine, moi j'habite là-bas. Et toute cette période de Marianne Faithfull, des Beatles, de Sandy Shaw, de tous ces artistes que j'ai aimés en Angleterre, j'ai connaissé leur voix et en plus de ça, je la vois en vrai. Alors là, j'étais très émue. Elle avait ce côté, voilà, très joliment maquillée, et puis très pâle, et puis ses cheveux blonds, et puis cette jolie voix. Et c'était sa chanson qui était vedette à l'époque. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose de sensible dans sa voix. Et c'est comme une balade. C'est une jolie balade. C'est très joli. Du reste, ça fait un grand succès. Hein.
Sachant que quand vous faites ces photos-là, vous, on vous appelle parce que vous aviez déjà un succès aussi.
Oui, je venais de faire le Jean-Luc Godard en 65, masculin, féminin.
Vous aviez le premier rôle.
Oui, le premier rôle. J'ai même un prix d'interprétation à Sorrent, qui était la Venise de l'époque, remise par Monica Vitti, je me souviens. Et Marianne Faithfull, c'était la grande vedette à l'époque, puisqu'elle chantait cette chanson que j'adore.
Et cette chanson-là, l'année suivante, elle l'a chantée dans le film de Godard, Made in USA.
C'est vrai, mais oui, c'est vrai. Comme quoi, vous voyez, il y a des connexions dans la vie qui sont invraisemblables. It is the evening of the day. I sit and watch the children play.
Cette chanson, Frédéric, est donc celle qui a fait connaître Marianne Faithfull. Autre chanson, autre souvenir avec cette fois le producteur François Ravard.
Qui fut à la fois le manager et le compagnon de Marianne Faithfull. Ils se sont rencontrés au début des années 90. À l'époque, François Ravard avait pour ami le parolier Étienne Rodagil et le directeur de label Philippe Constantin.
Philippe Constantin me dit « on va faire un coup exceptionnel ». La chanson d'Ismaëlo, La femme sans haine, on va en faire un duo avec Marianne Faithfull à Dublin. On enregistre dans une semaine, il faut que tu viennes à tout prix, Étienne vient aussi. Pour lui, c'est sine qua non, j'ai pas le choix, faut que je l'accompagne à Dublin pour lui tenir la main, parce que je m'aperçois qu'il est tétanisé, qu'il adore, qu'il voue un culte à Marianne. Finalement, je lâche mes dossiers et je pars avec eux à Dublin. Donc, on y va, la bande des trois, c'est Rodagil, Constantin et moi, pour l'enregistrement de la chanson.
Toutes les femmes sont des reines, but some are more regal than others. Some shatter a man's dream by breaking away from their lover.
Marianne arrive très très vite, je la trouve belle comme l'amour, elle doit avoir 48 ans à l'époque. Puis elle parle de tout et de rien, mais surtout pas de la chanson. Donc au début, ça nous inquiète tous un peu, on se dit ça va durer longtemps. Elle fait jouer le playback une fois devant elle, elle avait recopié le texte à la main. Et puis tout d'un coup, elle dit « Allez, on y va !» Et en une prise, ça y est, c'est dans la boîte, quoi. Et la première chose qu'elle dit « Ok, let's slip into decadent Dublin !» Ismaëlo est ravi, il est très très content. Donc voilà, on la suit, quoi.
Il n'y a eu qu'une seule prise.
Il n'y a eu qu'une seule prise, et donc ça m'a rappelé les anecdotes dans les années 60 où tous les ingénieurs du son de Londres l'appelaient « Marianne One Take Faithfull ». La plupart du temps, c'est la première prise qui est la bonne. Donc voilà, c'est une chanson sublime.
I am gone.
Without Blame, Ismaël Lô, Marianne Faithfull et les souvenirs du producteur François Ravard à votre micro, Frédéric.
Extrait d'une interview que l'on avait diffusée ici même il y a 4 ans.
Précieuse archive. Merci Frédéric Pommier. Vous serez à l'écoute ce soir, 21h, 22h. Mathieu Conquet rendra hommage en musique à Marianne Faithfull. Encore quelques minutes avec la voix de Marianne Faithfull. As Tears Go By. Pour les remerciements de cette semaine à la technique, Loïc Frapsos et Julien Dumont, à la rédaction en chef Estelle Schmitt, Thibaut Cavaillès, Sébastien Sabiron et Cécilia Arbona, assistée de Sylvain Lesage, Nicolas Sabat, Swad Bellani et Stéphane Rousset, notre chargé de programme, Claire-Sophie Collet. À suivre, Mathieu Vidard et la Terre au Carré.